Europe 1.
Ici, émission spéciale au lycée Georges Dumézil à Vernon, dans l'Eure. Nous sommes en Normandie, installés depuis le début de la journée. Nous avons passé la journée avec les lycéens. Vous allez entendre quels sont leurs rêves, quelles sont leurs ambitions pour la suite. On les a questionnés et puis ensuite, c'est à eux de poser des questions. C'est à leur tour de faire du journalisme finalement et de poser des questions à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Vous pouvez toujours intervenir au 39-21.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 en vidéo, également sur Europe 1.fr et en Facebook Live. On vous retrouve, Mathieu Béliard, en direct du lycée Georges Dumézil en Normandie.
Oui, venez sur le Facebook Live d'Europe 1, même si j'ai découvert que les jeunes ici présents ne sont plus du tout sur Facebook et que c'est un réseau social pour les vieux. Voilà pour le coup de vieux que nous avons pris aujourd'hui. Venez en tout cas sur le Facebook Live assister à cette émission avec Jean-Michel Blanquer, que je vais saluer, qui est avec nous jusqu'à 20h. Bonsoir Jean-Michel Blanquer.
Bonsoir.
Le ministre de l'Éducation nationale qui est ici dans l'heure pour répondre aux questions des lycéens, peut-être de certains parents d'élèves ou d'enseignants. Vous restez bien sur Europe 1 jusqu'à 20h. Vous, Pauline Jacquot, bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Vous avez passé la journée ici sur ce campus avec les lycéens de la filière générale et de la filière professionnelle. Vous êtes allé discuter avec eux de leur avenir, comment ils se sentent dans leur classe, dans leur spécialité, de leur vie après le lycée finalement, de leurs examens à venir, de Parcoursup, etc. Bref, comment ils voient la suite, Pauline ?
Ouais, et pour bien apprécier la parole de tous ces lycéens que vous allez entendre, il faut se remettre dans un état d'esprit. Rappelez-vous de vos années lycée, les cours, les sonneries, les devoirs surveillés, le stress des interros surprises, et puis cette question qu'on vous pose sans cesse, vos profs, vos parents. Qu'est-ce que tu veux faire après ? Alors, tu choisis quoi ? Réponse d'Abel en classe de seconde générale.
Pas grand-chose. C'est bien ça le problème quand on est jeune. En fait, on a beaucoup de choix et il faut en prendre un seul, donc c'est un peu dur.
Le choix, l'hésitation, l'incertitude, la peur de se projeter aussi. Pas facile de sortir de cette espèce de cocon. Je vous emmène maintenant dans les classes de la filière professionnelle de ce lycée. Dans cet atelier, blouse bleue sur les épaules, il y a Paul. Il est élève en terminale maintenance des équipements industriels.
Il y a le bac qui arrive, donc il y a ce stress. Il y a le stress d'après, de savoir si je continue mes études ou pas. Est-ce que je veux travailler, avoir un patron sur mon dos, mes parents du coup aussi peut-être. Il y a certains professeurs qui nous aident pas mal. Et parfois, on a d'autres professeurs qui nous disent « vous avez redoublé », qui essayent de nous mettre un peu la pression. Ouais, c'est un peu compliqué les fins d'année comme ça.
L'avenir pour tous ces lycéens, c'est donc d'abord les mois à venir. La fin de l'année, le bac, beaucoup de stress, mais aussi de l'impatience. Frédéric, par exemple, il est en première STMG, ça veut dire sciences et technologies, management et gestion. Et il a des idées très claires pour la suite.
J'ai décidé de me lancer dans le dessin après avoir échoué au football. Je suis assez bon en dessin et j'ai récemment participé au concours de dessin du lycée, organisé par moi-même et le CVL. Le bac, en fait, pour moi, c'est comme un ticket pour aller dans le nouveau monde, on va dire, pour aller dans la chose que je veux faire, c'est-à-dire graphiste et essayer de changer le monde avec ma petite personne.
Même détermination chez Caliste. Il a 16 ans et depuis qu'il a soufflé sa 10e bougie, il rêve d'une chose, devenir pilote dans l'armée de l'air.
Je sais que j'ai mon objectif, je sais ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre et donc voilà quoi. J'ai déjà un plan d'avenir un peu. Bah, j'ai même prévu de faire un stage d'une semaine dans un régiment. Donc, quand j'aurai 17 ans, je pense que je le ferai l'année prochaine.
Voilà, mais entre le lycée et leur future carrière, même ceux qui ont une idée assez claire, tous redoutent un peu la même chose. Ça s'appelle Parcoursup, c'est la sélection. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer autre chose ? Vous le savez, au lycée, quand on a une question, on va débattre, où ça ?
Où est-ce qu'on débat ?
À la cantine, évidemment. Tout le monde débat à la cantine. Et dans la file qui attend patiemment, il y a Inès, elle a 17 ans.
On ne nous laisse pas penser par nous-mêmes, on ne nous demande pas ce qu'on voudrait faire plus tard, on ne nous demande rien. On calque les métiers des parents, l'époque. Il faudrait qu'on se crée notre propre avenir, quoi.
Voilà, un avenir à inventer. Ça prendra un peu de temps, évidemment, dit Inès. Mais en attendant, on aimerait bien une chose, et ça revient beaucoup dans les requêtes des lycéens ici, c'est être mieux informé sur les études après le bac, et surtout de manière beaucoup plus concrète, avec, par exemple, disent-ils, des professionnels qui viendraient nous rencontrer au lycée.
Merci beaucoup, Pauline Jacquot. La cantine, on a déjeuné à la cantine, hein, nous, à midi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était là, mais il y avait des frites à la cantine. Il y avait des frites à la cantine aujourd'hui. Je pense que c'était un peu pour nous. On va prendre les questions dans le public des lycéens du lycée Georges Dumézil pour Jean-Michel Blanquer. Arnaud, tiens, du Club Radio. Je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas que le Club Radio qui peut poser des questions à Jean-Michel Blanquer. N'hésitez pas, levez la main, on vous passera un micro. Arnaud, c'est à toi.
Bonsoir, bonsoir, monsieur le ministre. Donc, je m'appelle Arnaud, je suis actuellement en classe de première STMG2 au lycée Georges Dumézil. Et ma question porte sur la valorisation des filières technologiques et professionnelles. Donc, la question, c'est à quand la fin de ce fossé entre filières générales, filières technologiques, filières professionnelles ? Parce que moi, je sais que là, je suis en première STMG. L'année dernière, je n'étais pas dans ce lycée-là. J'étais dans un lycée à Vincennes, proche de Paris. Je pense que vous connaissez. Et donc, moi, on m'avait dit, tu n'as pas les résultats assez satisfaisants pour aller en ES ou en L. On m'a dit, va en STMG. Bon, je n'ai pas eu trop le choix, puisque bon, bah, j'ai dit, d'accord, je prends ça comme ça. Et voilà. Mais au final, j'arrive en première STMG et je me sens très bien par rapport à ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, attention, STMG, ce n'est pas bien du tout. Tu n'as pas travaillé, les élèves ne travaillent pas, il n'y a aucun avenir. Mais au final, je me plais très bien. Et justement, je ne sais pas, c'est des préjugés qui circulent encore. On est en 2019, il y a toujours ces préjugés qui circulent sur les filières technologiques, alors que c'est une filière comme les autres, au final.
Jean-Michel Blanquer.
C'est une question très importante. On est tout de suite dans le vif du sujet, parce que là, en effet, je suis d'abord totalement d'accord avec votre question. La voie technologique et la voie professionnelle, c'est très important. Très souvent, il y a un avenir professionnel parfois plus ambitieux et plus fort quand on fait ces filières-là. Simplement, il y a une image qui est moins bonne que l'image de la voie générale. Donc, c'est ce que l'on essaye de changer actuellement, notamment avec la réforme de la voie pro, de plein de façons. D'abord, il ne faut plus qu'on aille en voie technologique ou en voie professionnelle à cause d'un bulletin scolaire qui ne serait pas assez bon. On doit y aller parce qu'on a envie d'y aller. C'est ça la première raison. Un des chiffres que je regarde le plus, c'est la satisfaction du premier vœu des élèves en fin de troisième. Parce que ce taux de satisfaction nous dit quelque chose sur tout simplement la réussite de l'élève. Parce que si on va dans un endroit qui nous plaît, en général, on va plus réussir. Et donc, la voie technologique, souvent pas très bien connue d'ailleurs, en général, le grand public ne sait pas très bien ce que c'est que la voie technologique entre la voie générale et la voie professionnelle. Mais cette voie technologique a un très bel avenir, tout simplement parce qu'elle correspond à des métiers. Et elle correspond à deux très grandes mutations de notre époque, qui sont la mutation numérique, et il y a beaucoup de numérique en voie technologique, et puis la mutation écologique, et une filière comme celle qu'on appelle STI2D, est par exemple beaucoup faite pour les métiers de l'énergie, les métiers du bâtiment, autrement dit, des métiers correspondant aussi à l'industrie du 21e siècle. Parce que cette semaine, c'est la semaine de l'éducation aux médias, mais c'est aussi la semaine de l'industrie. Et nous sommes en train de valoriser les carrières industrielles, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a du travail dans l'industrie, on crée des emplois dans l'industrie, et l'industrie n'a plus rien à voir avec ce qu'était l'industrie au 19e ou même au 20e siècle. C'est désormais ultra numérisé. Ben, j'étais il y a quelques jours à Vernon pour cette semaine de l'industrie, donc pas très loin d'ici, où il y a une des dix usines les plus modernes du monde, qui est l'usine de Schneider Electric, et où ceux qui, souvent en ayant fait un bac pro ou un bac techno, travaillent, sont bien payés, sont heureux, ont des belles évolutions de carrière. Donc il faut qu'on fasse connaître toutes ces opportunités qui existent au travers de la voie technologique et de la voie pro, et que les élèves y aillent parce qu'ils en ont envie, et pas parce qu'ils ont un bon, un moyen ou un mauvais bulletin de notes en troisième. Alors je pourrais être très long sur ce sujet, j'imagine qu'il faut que je fasse des réponses courtes, mais par exemple, l'année dernière, j'ai dit à tous les principaux de collèges de France que le collège ne serait plus évalué en fonction du pourcentage d'élèves qui vont en général en technologique, en professionnel ou en apprentissage. Et avec ça, on a augmenté de 40% le nombre de candidats à l'apprentissage, c'est-à-dire d'élèves qui ont dit « mais moi, ça me fait envie d'aller en apprentissage ». Et on a augmenté de 5% le nombre d'élèves qui ont choisi la voie pro. Et alors pour cela, il faut évidemment qu'on ouvre des perspectives toujours meilleures à la voie pro. Autrement dit, qu'après la terminale, on puisse faire quelque chose qui nous convient, que ce soit un métier ou que ce soit de la poursuite d'études. C'est pour ça qu'on encourage par exemple beaucoup les BTS. Je sais que vous en avez trois dans cet établissement. Et on a augmenté le pourcentage d'élèves de bac pro acceptés en BTS.
Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. C'est réjouissant. Il est 19h20, vous êtes sur Europe 1. Les questions des lycéens avec le ministre de l'Éducation nationale. Merci Arnaud pour ta question. Les questions des lycéens adressées à Jean-Michel Blanquer, c'est sur Europe 1. C'est jusqu'à 20h. Vous restez bien avec nous, on revient dans quelques secondes.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Vous suivez l'émission en vidéo sur Europe 1.fr et en Facebook Live. Et nous sommes ce soir à Vernon en Normandie sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard en direct du lycée Georges Dumézil, des lycéens qui échangent jusqu'à 20h avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Franchement, ça me fait un très grand plaisir de voir toutes ces mains qui se lèvent et qui souhaitent poser des questions à Jean-Michel Blanquer. C'est que vous avez compris le but de cette émission. Moi, j'ai échangé avec quelques élèves, il a beaucoup été question de la réforme du bac dans nos échanges aujourd'hui. C'est clairement une préoccupation pour eux et je crois que Tanguy voulait poser une question à ce sujet.
Oui, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Alors ma question c'est pourquoi est-ce qu'on a eu très peu d'informations sur la réforme au point que les professeurs eux-mêmes ne peuvent pas nous informer quand on leur pose des questions sur la réforme ?
Bon alors, normalement, il y a une forte information sur le sujet depuis le mois de novembre, hein, donc il faudrait voir exactement ce qu'il y a derrière l'affirmation que vous faites, puisque depuis le retour des vacances de la Toussaint, normalement, vous avez dû avoir des réunions avec les lycéens, même les parents d'élèves ont pu avoir des informations, et puis sur le site du ministère, et avec des documents qui ont été aussi distribués dans tous les lycées, on a expliqué la réforme. Je rappelle que cette réforme, elle a été conçue l'année précédente, pendant toute l'année précédente, en consultant plus de 40 000 lycéens, en consultant aussi les organisations syndicales, les associations des différentes disciplines, et que le résultat de cette concertation, c'est la réforme. Et elle a été faite pour vous, c'est-à-dire pour vous donner, et même par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les élèves qui, étant dans les voies générales aujourd'hui, disent qu'ils se sentent un peu dans un couloir fermé, elle a été faite justement pour vous ouvrir les possibilités, pour vous ayez plus de choix. Alors c'est peut-être parfois un petit peu plus difficile à comprendre, parce qu'il y a plus de choix, donc plus de choses à assimiler, mais c'est fait pour vous donner plus d'opportunités dans la vie, tout simplement.
Merci Tanguy, merci pour ta question. Célia, et ensuite on va sortir du club radio parce qu'il y a beaucoup de mains qui se sont levées, on va faire circuler le micro. Célia, ta question, je crois qu'elle concernait aussi la réforme du bac.
Oui, donc bonjour, je voulais savoir comment le supérieur il allait s'adapter à la réforme.
Alors c'est une excellente question parce qu'il y a une cohérence entre les évolutions qui se passent dans l'enseignement supérieur et les évolutions qui se passent dans le lycée. Le but est de faire bouger des deux côtés pour avoir des parcours plus personnalisés. Parce que lorsque je veux résumer la raison d'être de cette réforme, je dis c'est le fait qu'en préparant le baccalauréat, vous préparez ce qui vous fait réussir après le baccalauréat. Autrement dit, on doit sortir d'un système où le baccalauréat est parfois un petit peu artificiel, c'est-à-dire vous préparez les examens pour juste avoir le parchemin, qui ensuite vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Alors que là, l'idée, c'est qu'en préparant le baccalauréat, vous développez des compétences qui vont vous faire réussir dans l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un scandale, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop d'échecs dans l'enseignement supérieur. Donc, par exemple, quand dans le nouveau baccalauréat, vous avez un oral important à la fin, dans les épreuves finales, un oral un peu solennel, c'est fait pour envoyer un message à tout le système scolaire, pour préparer les élèves à bien s'exprimer, comme vous le faites ce soir, ce qui est une compétence que tous les élèves n'ont pas nécessairement, et que les élèves français, souvent, n'ont pas suffisamment, parce qu'on ne développe pas assez la confiance en soi, la capacité à argumenter, etc. Donc, mieux préparer à l'enseignement supérieur, mais aussi faire bouger les lignes dans l'enseignement supérieur. Par exemple, en ce moment, vous avez des établissements, que ce soit des universités, des instituts, qui font évoluer leurs attendus. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on n'a pas envie d'un élève standard, par exemple des élèves qui ont fait S ou que des élèves qui ont fait ES, mais d'avoir des élèves qui ont des parcours différents parce qu'on a besoin de cette diversité de parcours. Je sais par exemple que les différents Sciences Po de Paris ou des différentes régions sont contents d'avoir cette diversité de profils dans le futur.
Merci beaucoup. Alors une autre question juste ici, c'est Jade, à travers Jade, puisqu'on a échangé, on a pu discuter, je voudrais saluer aussi l'engagement associatif de certains élèves, puisque toi, tu as créé une antenne d'Amnesty International ici, oui. et quand même, il y a des élèves engagés qui se bougent, mais ta question, je crois qu'elle concerne la réforme du bac.
Oui, la réforme du bac. Donc, pour moi, la réforme du bac va entraîner une réduction des épreuves du baccalauréat, et par conséquent, une réduction de connaissances requises pour accéder aux écoles supérieures. Ne craignez-vous pas la chute du niveau scolaire en France et des connaissances ? Le but premier de l'école est d'instruire. Si ce dernier est limité, il ne peut pas former correctement les citoyens de demain.
Alors, merci pour cette question, parce qu'elle me permet vraiment de dire que c'est tout le contraire de ça. L'ensemble de ce que nous avons à faire, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, peut se résumer à deux objectifs. C'est élever le niveau général. C'est vraiment ce que je cherche à faire. Déjà, en commençant par l'école primaire, en s'assurant que tous les élèves savent vraiment bien lire, écrire, compter et respecter autrui. Et puis aussi, assurer la justice sociale, c'est-à-dire compenser les inégalités, par exemple en implantant des spécialités plus attractives dans les établissements qui ont besoin de se rendre plus attractifs, etc. Or, cette réforme permet justement d'élever le niveau général, de plusieurs façons. D'abord, parce qu'en faisant une part au contrôle continu, 40%, elle encourage le travail en continu, en première et en terminale. On en finit un peu avec le bachotage, avec l'idée qu'on travaille juste à la dernière minute. On valorise le fait de travailler tout au long du parcours. Du coup, on a au moins autant d'épreuves qu'auparavant, simplement elles sont plus étalées dans le temps sur les classes de première et de terminale. Ça valorise le travail. Et en second lieu, ça favorise l'approfondissement. Parce que l'idée, c'est de vous dire, quand vous êtes en fin de seconde, vous choisissez trois disciplines de spécialité en plus du bloc commun. Et puisque vous les choisissez, puisque ce n'est pas un parcours standard c'est pas un menu, mais c'est à la carte. Puisque vous les choisissez, ça veut dire que vous les aimez, que vous en avez envie, et que donc vous pouvez plus les approfondir. Et donc les nouveaux programmes qui ont été faits en même temps sont plus exigeants dans des domaines que vous aimez. Et par exemple, si on prend les programmes de maths, de physique-chimie ou d'histoire-géo, ce sont des programmes qui vont plus loin que les programmes précédents, et donc ça va élever le niveau général.
19h29 sur Europe 1, vous restez bien avec nous. Cette émission spéciale ce soir au lycée Georges Dumézil, la semaine de la presse et des médias dans l'école et les questions des lycéens ce soir pour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. On va prendre aussi quelques questions peut-être au 39-21. Il y a beaucoup de bras qui se lèvent, le micro va circuler. On revient dans quelques secondes.
Europe 1 en direct de Vernon dans l'heure. Retour au lycée Georges Dumézil avec vous, Mathieu Béliard, et des lycéens qui échangent, qui posent des questions jusqu'à 20h. Votre invité Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Qui lève la main, Oubline, on se croirait vraiment en salle de classe. Agathe a un micro Europe 1 à la main, présidente de la Maison des lycéens, c'est bien ça Agathe?
Oui.
Bienvenue, Jean-Michel Blanquer est avec nous. Ta question pour le ministre Agathe.
Alors ça n'a rien à voir avec la Maison des lycéens ou même avec la réforme du bac. Ayant personnellement eu de nombreux soucis de santé durant toute ma scolarité, surtout au niveau du lycée, j'ai quand même été confrontée à pas mal de difficultés, surtout au niveau du bac maintenant. Et du coup, savoir si, j'ai pas du tout regardé la réforme du bac n'étant pas concernée, mais savoir si dans cette réforme ou à l'avenir, il y avait quelque chose de prévu pour les enfants qui, ou les ados qui ont des soucis de santé et du coup qui ont une scolarité plus pénible et qui doit être aménagée.
Oui, le fait d'ailleurs que ce soit plus souple, c'est-à-dire que les épreuves sont moins standards et du contrôle continu, permet une plus grande adaptation. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on va faire des efforts supplémentaires sur deux sujets. D'abord, les élèves qui ont un handicap permanent. Donc ça, c'est la question de l'aménagement des examens. Donc là, on a justement tout récemment produit tout un travail sur cette question pour être plus adapté dans les examens pour les élèves qui ont un handicap. Ensuite, pour ceux qui ont des problèmes de santé, on a toujours le CNED, l'enseignement à distance, qui est de plus en plus performant. Et d'ailleurs, le CNED participe à la réforme des lycées parce que sur chacune des spécialités, il y aura un cours à distance conçu par le CNED. Et puis, on est en train de développer un projet en ce moment avec différentes associations, qui est un projet aussi quand un enfant ou un jeune est à l'hôpital, d'avoir la possibilité d'avoir la classe filmée, regardée depuis l'hôpital. Donc ça permet à l'enfant ou à l'élève de tout simplement de rester en contact avec sa classe. Pour l'instant, c'est un projet expérimental, mais ça pourrait aller plus loin dans les temps qui viennent.
Je crois qu'on a un appel au 39-21. On va essayer d'inclure un de nos auditeurs au téléphone depuis le début de l'émission. Je suis infiniment désolé, j'ai pas eu le temps d'en prendre encore parce que je voulais laisser la parole aux lycéens au maximum. Je crois que c'est Paola qui est en ligne. Bonsoir Paola.
Bonsoir Mathieu, bonsoir Monsieur le Ministre. Je vous remercie beaucoup de prendre cet appel.
Allez-y Paola, votre question pour Jean-Michel
Blanquer. Oui, bonjour. Alors écoutez, moi j'avais d'abord un regret, c'est que je suis enseignante en fait au lycée Dumézil. Nous avions au départ obtenu le droit de venir assister à l'émission. On nous aurait bien aimé voir ce qui se passait. Et on est sélectionnés, puis on a appris avant-hier, voilà, mardi, que le cabinet du recteur nous refusait l'accès à l'émission, donc on est bien triste.
Paola,
mais
je veux juste préciser, parce que je vois, vous êtes derrière la grille, là, c'est ça?
Je suis dans une voiture derrière la grille, effectivement, d'accord. Il fait tellement froid que finalement, dans la voiture,
venez,
derrière
aucun la souci. Il y a eu un petit effet de zèle, avec une inquiétude de l'enseignant syndiqué. Jean-Michel Blanquer vous dit venez, il n'y a aucun souci. Je crois que certains d'entre vous ont été reçus par le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Ce soir, il y a eu un petit malentendu, en tout cas avec les enseignants de cet établissement. La porte, à mes yeux, est entièrement ouverte. Si vous avez une question, Paola, pour Jean-Michel Blanquer, ensuite je redonnerai la parole aux lycéens.
Oui, bien sûr. Allez-y. J'ai effectivement une question. Enfin, ma question en tant qu'enseignante est d'abord une inquiétude pour mes élèves, notamment les élèves de seconde qui doivent donc cette année faire des choix de spécialité. Et pour beaucoup d'entre eux, ils hésitent parce qu'ils ont bien compris que les choix de spécialité qu'ils vont faire maintenant vont peser sur leur orientation jusqu'à Bac plus 3. Et certains d'entre eux viennent me voir et disent « Mais madame, moi je ne sais pas ce que je veux faire plus tard ». Et c'est compliqué, c'est-à-dire que je trouve qu'on leur demande de faire des choix très déterminants, très jeunes. Et par ailleurs, moi je m'interroge aussi sur une autre question, c'est-à-dire qu'on leur demande de choisir 3 spécialités l'an prochain en première et on dit que c'est pour une formation riche, mais ils vont devoir abandonner une spécialité au bout d'un an. Donc ils abandonneront une spécialité à la fin de la première et en terminale, ils n'en auront plus que 2. Et donc j'ai l'impression de voir une formation qui se restreint. Et d'autre part, personnellement, j'ai d'autres questions parce que je suis enseignante d'italien.
Je voudrais qu'on laisse aussi la place aux lycéens et surtout la chance à Jean-Michel Blanquer de pouvoir vous répondre, Paola.
Oui, j'entends souvent ces arguments et je vous remercie de poser ces questions qui sont importantes parce qu'elles permettent des éclaircissements. Je pense que c'est l'exact contraire qui se passe. Parce que la situation que vous décrivez, c'est en réalité celle d'aujourd'hui, celle qui existait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous étiez en seconde, vous passiez en S, quand vous alliez en voie générale, vous alliez en S, ES et L. Et très souvent, il y avait une hiérarchie implicite. Et donc, si vous n'étiez pas en S, vous vous fermiez de fait des voies. Donc, l'orientation précoce, elle avait lieu avec cette logique-là. Autrement dit, par exemple, si vous voulez faire une carrière scientifique après la terminale, si vous n'aviez pas pris S dès la classe de première, vous vous étiez fermé des portes. Aujourd'hui, avec ce système, vous avez beaucoup plus un système de passerelle. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, puisqu'on passe de 3 à 2 spécialités en première et en terminale, c'est donc qu'on peut continuer à faire des choix. Et il y a même les lycées pour aménager même des passerelles pour ceux qui veulent faire des choix nouveaux entre la première et la terminale. Donc on a des parcours beaucoup moins standardisés, beaucoup plus personnalisés. Et bien sûr, on ne demande pas à l'élève de seconde de savoir déjà le métier, ni même les études supérieures, qu'il ou elle veut faire avant. Simplement, une des vertus de la réforme, c'est que ça oblige à se poser des questions en seconde que jusqu'à présent, on a eu tendance à se poser uniquement en terminale et souvent à la dernière minute. Et le simple fait de se poser ces questions est bon. Par exemple, tout un chacun peut aller sur un site qui s'appelle Horizon 2021, qu'on a créé, et qui permet justement de voir les types de parcours qui existent dans l'enseignement supérieur et de voir les types de parcours au lycée, désormais, qui peuvent correspondre à cet enseignement supérieur. Autrement dit, ça fait réfléchir. Ça ne vous dit pas qu'il faut absolument faire tel parcours. Ça vous explique qu'il y a plusieurs types de parcours qui peuvent mener ensuite à plusieurs types d'orientation dans l'enseignement supérieur. Donc ce questionnement qu'il ait lieu en seconde, c'est très bon. Et le but n'est pas que tout soit prédéterminé dès la seconde, mais qu'on commence à faire quelques choix. Et ces choix ne sont pas irréversibles. Alors que c'est aujourd'hui que les choix sont souvent irréversibles parce que nous avons juste, en voie générale, 3 couloirs et pas une série de possibilités.
19h38 sur Europe 1. Cette émission spéciale en direct du lycée Georges Dumézil continue avec Jean-Michel Blanquer qui répond à toutes les questions très clairement, les questions des lycéens ici présents. Il a beaucoup été question de harcèlement dans nos échanges avec les élèves un peu plus tôt. On en parle juste après la pause. Vous restez bien sur Europe 1. Aucun souci pour moi. Toutes les questions peuvent être posées. Tout le monde est le bienvenu. Je crois que c'est aussi dans cet état d'esprit qu'est venu Jean-Michel Blanquer. 19h39.
Europe 1. Et vous restez bien sur Europe1.fr, également votre grand journal du soir jusqu'à 20h en vidéo et en Facebook Live. Votre grand journal du soir sur Europe 1 en direct du lycée Dumézil à Vernon en Normandie avec Mathieu Béliard et avec les lycéens qui échangent avec votre invité Mathieu Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
La semaine de la presse et des médias à l'école et nos apprentis journalistes ici présents qui posent leurs questions, qui apportent leurs témoignages à Jean-Michel Blanquer ici présent. Abigail, tiens, qui est avec nous. Ta question, je crois que ça concerne le sujet dont nous avons parlé avant 19h.
Oui.
La question du harcèlement scolaire.
C'est ça.
Vas-y, Abigail.
Bonsoir déjà. Et qu'en pensez-vous des filles déjà dans les filières industrielles et du harcèlement qu'elles subissent? Et de vous imaginez combien de personnes qui sont en professionnel sont-elles dans cette salle? Parce que moi, je l'ai énormément vécu, cet harcèlement. Vous en pensez vraiment quoi?
Alors, c'est une question très importante. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions dans la question. Parce que d'abord, première chose, il est très bon qu'on ait de plus en plus de filles dans les filières industrielles, et ça rejoint une des questions qui a été posée tout à l'heure sur la voie pro et les filières industrielles dans la voie pro, parce que beaucoup trop souvent encore dans la voie pro ou même dans la voie techno, on voit qu'il y a pratiquement que des garçons dans certains endroits ou que des filles dans d'autres. Donc plus c'est mixte, meilleur c'est, et d'ailleurs plus ce sera mixte, moins on aura les phénomènes de harcèlement qui peuvent exister. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que je visitais une usine tout près d'ici, à Vernon, il y a quelques jours, une usine très moderne où justement il y a de plus en plus de femmes parce que ces métiers de l'industrie sont tout autant faits pour les femmes que pour les hommes. Alors ensuite, le phénomène de harcèlement, c'est-à-dire de harcèlement des garçons vis-à-vis des filles en l'occurrence, c'est évidemment un fléau. Nous devons lutter contre cela. D'ailleurs, on lance des campagnes sur le sujet. Il y en a une qui a démarré en novembre dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est une campagne surtout sur le cyberharcèlement à caractère sexuel, dont sont victimes souvent les jeunes filles. Et nous avons maintenant des programmes de formation, notamment des chefs d'établissement et des professeurs, sur la prévention de ces phénomènes de harcèlement. Mais ça nous renvoie à un problème profond dans nos sociétés, en France et ailleurs d'ailleurs, c'est-à-dire d'abord l'égalité entre les garçons et les filles, mais aussi la prévention du harcèlement, que ce soit ce type de harcèlement ou un autre. Et donc il y a profondément un sujet éducatif sur le fait que dès l'école primaire, on doit apprendre aux élèves à se respecter les uns les autres. C'est pour ça que je dis toujours lire, écrire, compter et respecter autrui. Et que dans l'ensemble des messages éducatifs que nous donnons, il y ait cet enjeu de la lutte contre le harcèlement.
Moi, Je trouve énormément qu'il n'y a pas assez de façons de le faire montrer. Moi qui est en filière industrielle, sur une classe de 31 garçons, je suis la seule fille. Et le harcèlement, je l'ai vécu pendant plus de 2 ans. Et je peux vous rassurer que ça a été vraiment horrible. Je vais limite vous passer les détails parce que ça pourrait vraiment vous brûler les oreilles.
Jean-Michel Blanquer, par rapport à ce que dit Abigail et sur le rôle des encadrants, des enseignants, des CPE, est-ce qu'ils sont, la question a été évoquée tout à l'heure, est-ce qu'ils sont suffisamment formés déjà sur ces questions-là ?
Certainement jamais assez, et c'est justement ça qui doit changer et que nous voulons faire changer. Ce qui est certain, c'est que le message vis-à-vis de tous les adultes, que ce soit les professeurs, les CPE, l'ensemble des personnels qui travaillent dans les établissements, c'est que dès qu'il y a le début d'un harcèlement, même si ça semble être une petite chose, en réalité, il faut réagir tout de suite et à la racine. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, et on pourra d'ailleurs en parler peut-être en antenne, mais ce qui est évident, c'est que normalement, votre établissement doit réagir par rapport à cela. Et nous avons aussi un numéro qu'on a mis sur pied qui s'appelle le 30-20, quand on se sent seul par rapport à ce genre de problème, pour alerter, puisque, en effet, il faut évidemment lutter contre cela. C'est particulièrement vrai. Enfin, d'abord, je veux vous féliciter de votre courage, parce que avoir été une fille en filière industrielle, c'est déjà un beau choix. Ensuite, avoir su assumer ça pendant 2 ans, c'est fort aussi. Et bien entendu que nous devons avoir cette lutte à la racine contre ce problème.
Merci beaucoup, Abigail, parce que je sais que ce n'est pas non plus facile de parler de ces choses-là. Et c'est très bien fait, très bien dit. Et j'espère que la réponse de Jean-Michel Blanquer t'apportera le 30-20, il faut le rappeler peut-être. 30-20 pour les élèves qui se sentiraient isolés et qui voudraient peut-être appeler à l'aide. Wylaine est avec nous avec une autre question. On va juste passer le micro, Wylaine.
Bonjour, monsieur. Moi, bonjour. J'aurais voulu parler des inégalités, puisque l'école est censée réduire ces inégalités sociales. Je dirais même que l'école est censée être pionnière en matière d'égalité et chaque élève souhaiterait à ce désir d'avoir les mêmes chances. Pourtant, il demeure un certain nombre d'inégalités, notamment géographiques. Ça serait bête de nier que tous les lycéens, les élèves en Île-de-France ont beaucoup plus de chances de réussir leur vie, oui, puisque non seulement ils ont la chance d'aller dans des lycées prestigieux, mais c'est surtout qu'il y a un certain nombre d'écoles qui favorisent les élèves en Île-de-France. Je pense que...
Sur Parcoursup c'est lié à Parcoursup, cette question oui. C'est vrai ce que dit Wylaine sur le choix des écoles.
Il faut les laisser finir sa question, non ? Et je vais lui répondre à ça.
Donc, je pense que l'inégalité face à l'éducation est la première des injustices contre laquelle il nous faudrait lutter. Et je pense qu'il faudrait inverser la tendance, notamment en favorisant l'anonymat pur et parfait à Parcoursup, puisque ça a un impact sur toute notre vie.
Alors, il y a évidemment de grands enjeux derrière cette question. D'abord, je le disais tout à l'heure, le double but qu'on se fixe pour toute l'évolution de l'éducation nationale, c'est élever le niveau général et justice sociale, et donc lutter contre les inégalités. Et les deux vont ensemble. Si on élève le niveau général, on améliore la justice sociale. Si on améliore la justice sociale, on élève le niveau général. Et par exemple, les mesures qu'on a prises à l'école primaire, le fait de dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les territoires les plus défavorisés, ça touche 20% des élèves dans les territoires les plus défavorisés, eh bien, c'est fait pour aller à la racine de l'inégalité, notamment l'inégalité devant le langage et devant l'entrée dans les savoirs fondamentaux. À l'âge du lycée, il y a un enjeu territorial, géographique, c'est vrai. Il y a aussi d'autres enjeux que celui-là. Je ne voudrais pas qu'on ait un tableau trop sombre de la situation. On ne peut pas dire non plus que l'Île-de-France est favorisée par rapport au reste de la France, très forcément. Regardez ici, dans votre lycée, je l'admirais juste avant d'arriver vers vous. Vous avez un véritable campus, vous avez des espaces verts, des équipements sportifs, précisément grâce au fait que vous êtes en Normandie, que vous avez de l'espace. Et c'est une chance. Il y a beaucoup de lycées en Île-de-France que je connais, j'en vois beaucoup, qui souvent sont dans des espaces un peu moins agréables. Il faut regarder un petit peu tout. Par ailleurs, dans la réforme du lycée que nous sommes en train de faire, notre objectif est de mettre les enseignements de spécialité les plus attractifs dans des lycées qui ont besoin de se rendre plus attractifs. Donc c'est aussi une façon de lutter contre les inégalités territoriales. Et puis enfin, il y a l'accès à l'enseignement supérieur. Donc l'accès à l'enseignement supérieur. Depuis toujours, il y a eu des critères géographiques. C'est assez normal. On ne va pas mettre tous les étudiants de France à Paris parce que tel ou tel établissement de Paris serait prestigieux. Ce serait contradictoire d'ailleurs avec le fait qu'on veut par exemple que les universités de Rouen soient excellentes, que celles de Caen, enfin pour ne citer que la Normandie. Et donc il est tout à fait normal que les étudiants d'une région aillent plutôt dans l'université ou les établissements d'une région. D'autant plus qu'il y a de l'excellence dans chaque région. Mais il n'y a pas de discrimination pour l'arrivée à Paris. L'année dernière par exemple, les académies de Créteil et de Versailles ont vu augmenter le nombre d'élèves, le pourcentage d'élèves allant dans les universités de Paris, alors que c'est la crainte inverse qui avait été exprimée auparavant. Donc oui, il y a un travail pour qu'on puisse davantage anonymiser les candidatures, en tout cas faire en sorte que le seul critère, ce soit l'excellence de l'élève pour être admis quelque part. Et par ailleurs, il y a un travail à faire pour créer plus de mobilité. Mais le plus important, c'est surtout de cultiver l'excellence sur toutes les parties du territoire et de ne pas être dans une centralisation de l'excellence à Paris.
Merci beaucoup. Il est 19h49 sur Europe 1. Une dernière pause, une toute dernière pause et ensuite sans doute une question, peut-être deux si on a un peu de chance, ça va aller très vite. On arrive au bout de l'émission, Jean-Michel Blanquer qui répond aux lycéens du lycée Georges Dumézil, lycée dans l'heure, restez bien sur Europe 1.
Europe 1 en direct de Vernon dans l'heure où on vous retrouve Mathieu Béliard avec les élèves du lycée Georges Dumézil qui échangent avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une question c'est sûr, deux si on a de la chance. Célia du club radio du lycée Georges Dumézil qui a une question à poser à Jean-Michel Blanquer.
Je voulais savoir si vous craignez pas que la réforme accentue les inégalités sociales, parce que entre une personne qui aura fait des mathématiques en spécialité en première et une personne qui aura décidé d'arrêter dans le supérieur, elle aura peut-être besoin de mathématiques et prendra des cours de remise à niveau, mais ce sera des entreprises privées, il faudra payer. Et comment feront ceux qui n'auront pas les moyens ?
Non, je pense que c'est vraiment le contraire. C'est aujourd'hui que si vous n'avez pas fait S, vous vous retrouvez dans ce genre de situation que vous décrivez, alors qu'aujourd'hui, on interdit à personne de choisir maths en spécialité. Simplement, prenons l'exemple de deux élèves qui vont plutôt bien en classe de seconde, et quelle que soit leur classe sociale. Ils ont le choix, et ils ont tous les deux envie de faire des études qui soient des études de sciences humaines. Par exemple, disons qu'ils veulent faire Hippocagne. Eh bien, il y en a un qui va raisonner, je dirais, à l'ancienne, qui va se dire, je vais faire comme avant, c'est-à-dire je vais reproduire la filière S, je vais faire maths, physique SVT par exemple. Et puis l'autre va se dire, et tous les deux ont envie de faire Hippocagne. Le deuxième va se dire, comme je veux faire Hippocagne, je vais plutôt prendre humanité, histoire géo et éco par exemple. Eh bien, est-ce que c'est le premier ou est-ce le deuxième qui va être avantagé ? Moi, je pense que c'est plutôt le deuxième à la fin, parce que justement, il n'y aura plus d'hierarchie entre les choix. Donc il faut s'enlever de la tête que le fait de faire maths crée une supériorité particulière. Le fait de faire maths crée une supériorité quand les études que l'on va faire nécessite des mathématiques, ce qui est le cas d'un certain nombre de domaines, mais pas tous. Par ailleurs, je rappelle qu'en classe de terminale, vous pouvez prendre une option qui s'appelle maths complémentaire pendant 3 heures. Pour ceux qui ne faisant pas des maths intensives, veulent compléter. Il y aura surtout des probabilités, des statistiques dans ces maths-là. Par exemple, pour ceux qui veulent faire de l'économie après ou qui veulent faire même des études de biologie, par exemple. Et donc, il faut arrêter de s'obnubiler avec les maths. Les maths, c'est très important. Elles sont très présentes, c'est la discipline la plus présente dans la réforme, hein, puisque vous les aurez dans le bloc d'enseignement commun. Il ne faut pas oublier qu'il existe et qu'il est fort, hein, c'est la majorité des heures. Ça existe comme enseignement spécialité, et tout un chacun peut le choisir. Je sais que beaucoup d'élèves vont le choisir. Et puis ça existe comme option. Donc les maths sont très présentes, mais dans la nouvelle formule, vous avez un parcours plus personnalisé, moins standardisé, c'est-à-dire vous faites un nombre d'heures de maths qui correspond à vos goûts.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Je voudrais vous remercier beaucoup de monde autour de cette table. Je sais qu'il y aura des frustrations parce que toutes les questions n'ont pas pu être posées, qu'il y a encore beaucoup de mains qui sont levées. Mais c'est comme ça, nous on n'a pas l'endurance que vous avez sur les 7-8 heures de grand débat que vous organisez de temps en temps. Je voudrais juste citer quelques noms et remercier David Vigerie, Fabien Duchesne et Olivier Duval de la Technique d'Europe 1 qui sont venus nous accompagner ici. Un très très grand merci à Virginie Salmen qui est notre spécialiste éducation à Europe 1 et qui n'a pas pu venir et qui est infiniment désolée et très déçue de ne pas avoir pu venir. On embrasse très fort Virginie. Je voudrais saluer d'abord tous les élèves d'une manière générale de ce lycée avec lesquels on a pu échanger et qui nous ont beaucoup apporté aujourd'hui, en particulier Célia, Elisa, Arnaud, Thibaut, Tanguy, Damien. Célia, Elisa, Arnaud, Tanguy, j'en oublie, j'ai dû en oublier. Alors Célia, Elisa, Arnaud, Thibaut, Tanguy, Damien. Qui est-ce que j'ai oublié du club radio sur ma petite fiche? Je vois Célian et...
et Côme qui est juste là, évidemment. Voilà, il fallait tourner la page, mais je ne voulais pas en oublier parce que ces gamins-là, ils ont bossé très dur aujourd'hui. Ils ont énormément donné pour participer à ce grand journal du soir. J'espère qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir autour d'eux Claire Mélab, Madame Meyer également et Florent Rousseau qui anime ce club radio. Je voudrais remercier tout le lycée Georges Dumézil qui nous a accueillis, Monsieur Fauque, proviseur ici présent. Jean-Michel Blanquer, vous aurez le mot de la fin ce soir.
Bon, d'abord, pour vous remercier, parce qu'il y a une très belle énergie, puis les questions ont été vraiment de très grande qualité, donc bravo. Bravo aussi de vous investir dans ce genre de choses. Par exemple, les web radios dans les établissements, c'est un excellent exercice. Ça entraîne justement à préparer, à travailler à plusieurs, à s'exprimer à l'oral, donc c'est excellent. Et puis, évidemment, on pourrait se parler 4 heures. Moi, j'ai l'impression que c'est passé très vite. Et donc, on va d'ailleurs se parler en antenne. Mais par ailleurs, je voudrais dire qu'il y a les comités de vie lycéenne. Certains d'entre vous les animent. Ça permet aussi de faire vivre ce genre de questions. Je les réunis régulièrement. Je les ai vus hier en visioconférence et je les réunis le 5 avril prochain sur la question du climat. Je sais que l'environnement, c'est souvent votre thème, un thème très important pour vous. Et donc, c'est important qu'au travers de vos délégués, on puisse avoir des propositions, qu'on puisse continuer aussi à débattre sur ça et sur les enjeux du lycée. Je rappelle que cette réforme du lycée, elle a été faite avec 40 000 lycéens consultés et qu'elle est faite évidemment pour vous et pour vous ouvrir l'avenir.
Et je sais que certains vont échanger avec Jean-Michel Blanquer quelques minutes, parce que vous avez d'autres engagements, mais quelques minutes après cette émission, rendez-vous sur le Facebook Europe 1 en Facebook Live pour suivre ces échanges. Il est 19h56. Un grand merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis depuis 17h. J'espère que vous avez appris des choses ce soir. Un grand bravo à vous. Applaudissez-vous vous-même, les élèves du lycée Georges Dumézil ici. En Normandie, dans l'heure, Émilie Mazoyer, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Qu'est-ce qu'on écoute, Émilie?
Déjà, je vous annonce, vous avez 2 heures de colle. Tout le monde sait que vous avez fumé une clope dans les toilettes.
Et... Ça n'est pas vrai, mais il a fallu marcher. Il a fallu marcher.
Et ce soir, on écoute Elena Noguera.
Tu me demandes qui je suis.
Je te demande si tu me suis.
Elle va sortir dans 8 jours son nouvel album qui s'appelle Nu. Dessus, on retrouve ce duo avec Vincent Dedienne. Elle va venir nous en parler dans l'émission aux alentours de 20h30.
Et écoutez, belle soirée en musique avec Elena Noguera, un peu de bossa comme ça, Émilie Mazoyer. Jusqu'à 22h sur Europe 1 en musique. Avec un grand merci aussi à toutes les équipes du Grand Journal du Soir et à François Geffrier qui, eux, sont restés à Paris pendant ce Grand Journal du Soir. Salut à tous et à demain.
À demain, Mathieu Béliard, 17h. À tout de suite avec Sophie Tussaud pour l'information sur Europe 1.